Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Oh, une antiquité combien vivante dans Antiquissimo aujourd'hui, plus vivante que jamais, car notre invitée est une toute jeune femme dont nous allons reparler abondamment, mais que je salue tout de suite. Cette invitée s'appelle Amélie Cosse. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Alors cette invitée, je la connais depuis que lorsque Carpe Fush, l'association culturelle nimoise, a pu avoir le palmarès des 12 jurés. Je la connais donc depuis que l'album qu'elle a dessiné, Cléos, a obtenu un prix, le prix de la BD antiquisante, le prix Annie Pesson, qui a été créé déjà maintenant il y a quelques années et qui a un certain renom. Et comme je le lui ai dit à plusieurs reprises, puisqu'elle est venue à Nîmes dimanche 21 avril le recevoir dans le prestigieux Musée de la Romanité, à l'occasion du Forum du Livre Péplum, là aussi organisé par l'association Carpe Fush, lorsque nous lui avons remis son prix, qui était un crocodile baptisé pompeusement Croco des Reins, une création d'une céramiste locale réputée, Françoise Rebord, qui a son atelier à Beaucaire. Lorsque je lui ai remis donc son trophée, je lui ai signalé que d'habitude, les comptes sont très très serrés pour obtenir le palmarès. Or, l'album Cléos, récompensé donc cette année, donc album paru en 2023, récompensé en 2024 comme il se doit, eh bien, c'est à caracoler, comme on dit, en tête largement. Et ça faisait un bon moment qu'on savait que ce serait difficile, les votes arrivant les uns après les autres, de rattraper Cléos. Alors, on va d'abord parler d'Amélie. Donc, j'ai fait sa connaissance à l'occasion de Cléos. Mais du coup, je me suis aperçue que, évidemment, elle avait dessiné d'autres albums qui nous intéressent au plus haut point. Alors, son parcours, elle va peut-être nous le dresser. Nous reviendrons peut-être sur les origines de sa vocation. Mais ses études pour arriver là où on en est, par où êtes-vous passée, Amélie?
Alors, oui, j'ai fait un bac général littéraire et après je savais que je voulais m'orienter dans le dessin et j'ai fait une MANA, alors ça n'existe plus, mais c'était une mise à niveau en art appliqué public pendant un an, une sorte de prépa. Et après j'ai fait des études de dessin animé pendant 3 ans à Roubaix dans le Nord, qui ont été très formatrices, avant de, par un concours de circonstances très heureux, avoir mon premier contrat en bande dessinée.
Alors déjà, un petit retour sur cette école de Roubaix que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais qu'il faut signaler. J'ai noté qu'elle s'appelait l'ESAT. Est-ce que c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est l'ESAT.
Donc, le dessin animé, donc, on comprendra tout à l'heure peut-être mon petit clin d'œil musical à cette formation première et indispensable du dessin animé. Et alors ensuite, donc, le dessin tout court, le dessin en BD.
Oui, le dessin en BD... C'était depuis toujours, on va dire, mais le passage par le dessin animé est toujours très formateur et j'ai appris beaucoup de choses.
Et alors, quand est-ce que les choses très très sérieuses ont commencé?
Alors, si très très sérieuse, c'est le début du travail en BD.
Oui, en fait, tout est sérieux. Hein. Bien sûr que vous avez l'impression, comme tous les gens qui ont la chance de faire le métier de leur vie, la passion de leur vie, on a toujours l'impression qu'on ne travaille pas. Mais si, c'est un travail énorme, très très sérieux.
Et oui, alors la bande dessinée, ça a commencé par hasard, dans un cours de modèle vivant à Lille. Donc, c'est un cours où on se rassemble pour dessiner quelqu'un qui pose. Où je me suis assise à côté d'un inconnu qui m'a dit « Oh tiens, c'est sympa ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui ai dit « De la bande dessinée. » Et il m'a répondu « Mais je suis auteur de bande dessinée moi-même, envoie-moi ton book et je l'enverrai à mon ami éditeur. » Bon, ça paraissait un peu surréel, mais quelques jours plus tard, j'avais un appel de Hervé de la maison d'édition Grand Angle, chez qui j'ai fait tous mes albums pour l'instant, et j'ai eu une première proposition de bande dessinée, et cette proposition, c'était Cléos.
Alors ça, c'est le fatum, hein, le destin à l'antique qui avait frappé. Et donc, Cléos, mais Cléos paraîtra en 2023 parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres choses.
Oui, entre-temps, alors que j'avais fait une vingtaine de pages de Cléos, L'éditeur me rappelle et me parle d'un projet, La commode au tiroir de couleurs, qui est l'adaptation d'un roman d'Olivia Ruiz, qui devait être dessiné en bande dessinée, qui avait perdu son dessinateur. Et il avait pensé à moi. Et donc, j'ai dit que j'allais lire le roman, d'abord. Et j'ai lu le roman, et c'était, c'est un roman qui est très touchant et qui... J'ai pu le constater en dédicace, une histoire qui parle à beaucoup de monde et qui parle à beaucoup de familles. Et donc, j'ai accepté de faire cette bande dessinée, mais il fallait la faire avant Cléos, parce que comme c'était une collaboration avec la maison d'édition d'Olivia Ruiz, elle devait impérativement sortir en novembre 2021.
Donc, du coup, la commode est passée, les tiroirs de la commode sont passés avant Cléos.
Voilà, ils m'ont fait une petite pause d'antiquité avant d'y replonger complètement.
Et alors, effectivement, moi, quand je vous ai découverte, j'ai été vraiment attirée aussi par cet album qui est très, très beau et que je recommande, La commode au tiroir de couleurs. Moi aussi, j'avais adoré le roman d'Olivia Ruiz et j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait. Et le résultat est formidable. Vous expliquiez lors du forum du livre Péplum que vous avez travaillé en étroite collaboration avec Olivia Ruiz.
Oui, mais c'est toujours particulier d'adapter le roman de quelqu'un qui est toujours vivant. Je veux dire, adapter l'Iliade ou l'Odyssée, bon, j'imagine qu'on peut prendre des libertés depuis. Mais là, c'était une histoire qui était très personnelle pour Olivia Ruiz, pour l'auteur. Donc, c'était important qu'elle se retrouve dans l'album. Et on avait des réunions tous les mois pour qu'elle puisse voir les nouvelles pages, donner son avis, ses corrections. Et elle a réécrit tous les dialogues elle-même pour que ça sonne comme elle l'entendait dans sa tête aussi.
Et oui, parce qu'elle raconte l'histoire de sa grand-mère.
C'est ça, c'est l'histoire de sa grand-mère, une histoire où elle, dans sa vie, elle a eu beaucoup de non-dits, et donc elle raconte cette histoire à travers sa plume, et maintenant à travers la BD, pour transmettre. Quoi. C'est une histoire de transmission, c'est
exactement.
Une histoire de génération.
Et cette commode, qui est un objet emblématique, dit bien justement cette transmission.
Oui, oui, tout à fait.
Donc effectivement, lors de la dédicace le 21 avril de vos albums, il y avait beaucoup de gens touchés par cet ouvrage et qui vous ont demandé des dédicaces. Et ensuite, donc, est arrivé en 2023 Cléos, dont nous parlerons dans un instant. Et la nouveauté en 2024, c'est Fanny qui correspond à un autre projet.
C'est ça. Je viens de finir l'adaptation de Fanny, de Marcel Pagnol, donc. Toujours chez Grand Angle, dans leur collection Marcel Pagnol, qui sort en histoire complète après, avec Marius, qui ressort en histoire complète, qui était sorti il y a quelques années déjà. Et c'était un autre défi, mais un défi très intéressant, encore un monument littéraire. Alors, c'est déjà qui est passé à la postérité et tout ça, mais encore une adaptation. Et une adaptation avec des attentes, on va dire. Mais oui, qui était encore un monde très intéressant dans lequel me plonger et redécouvrir. Je connaissais un peu Marcel Pagnol, bien sûr, de mes études, de mon collège, lycée. Mais là, c'était l'occasion de me plonger dedans pour de vrai.
Alors, vous travaillez d'arrache-pied. On parlera peut-être dans un instant de vos d'autres projets, même si c'est toujours imprudent d'annoncer des choses, mais dire en tout cas ce que vous aimeriez faire. Moi, je signale tout de suite la dédicace à la fin de l'album de Cléos, qui est très touchante, puisque vous dites « Merci à mon père qui m'a donné le goût du dessin et des histoires ».
Oui, oui. Mon père, c'est celui qui m'a partagé la passion de la bande dessinée. Il dessinait un petit peu lui aussi dans son temps libre. Il me faisait des dessins quand j'étais petite, ça me faisait rêver, c'était incroyable. Et donc, même si la commode au tiroir de couleurs, c'est la première à être sortie, de par le fait que c'est une adaptation, c'était un petit peu moins personnel et je voulais que, entre guillemets, mon premier album dont je suis plus maîtresse, qui est Cléos, je voulais bien le dédicacer à mon père.
Il a dû en être extrêmement touché et fier. Et cet album, donc, vous ne l'avez pas fait puisque vous venez simplement de vous installer en Savoie, je crois. Oui. Vous étiez encore à Vienne.
Cléos, j'ai fait la première partie à Lille et la deuxième partie à Vienne.
Ah oui, alors parce qu'il faut signaler aux auditeurs, et ça a été l'objet de pas mal de choses, de discussions sur le net, Cléos, c'est une histoire en deux volumes. Le premier volume a eu énormément de succès et ensuite la maison d'édition a choisi, et je trouve que c'est un très bon choix, de publier ce qu'on appelle l'intégrale, c'est-à-dire les deux tomes en une seule fois. Mais il est bien précisé, et j'ai le papier sous les yeux, que les personnes qui auraient acheté le premier tome et qui se trouveraient un peu flouées de devoir racheter l'histoire dans l'intégrale doivent rapporter l'album numéro 1 au moment où ils achètent l'intégrale. C'est ça ?
Oui, à peu près. Ça a été, c'est sûr que ça a été un peu le bazar à la sortie. En fait, à la base, le scénario de Cléos était pensé pour être une histoire complète d'un bloc. Mais c'était notre premier album à moi et au scénariste à ce moment-là, qui entre-temps en a fait beaucoup d'autres. Et on nous a dit deux tomes, on s'est dit oui, deux tomes, c'est une bonne idée. Mais ce qui ressortait vraiment beaucoup après la sortie du tome 1, c'est que les gens étaient un peu frustrés. C'était une histoire qui devait être en un tome. Et on en a parlé avec l'éditeur, le scénariste en a parlé, il a de la tchatch, on va dire. Et après des discussions avec l'éditeur, et l'éditeur finalement s'est rangé cet avis aussi, effectivement c'est devenu une histoire complète en devenant une intégrale.
Alors je reparlerai un petit peu du scénario si vous le permettez après, c'est-à-dire d'où vient l'histoire en réalité. Mais ma question concernant les projets que vous auriez, est-ce que vous auriez envie d'écrire en même temps que dessiner et de commettre un album qui englobe les deux ?
Oui, c'est un truc. C'est ce que j'ai toujours fait avant que ce soit mon métier, c'est de faire mes bandes dessinées toute seule dans mon coin. Et donc j'aimerais bien, pas forcément ne faire plus que ça, mais je pense que j'aimerais bien et que j'ai un peu besoin aussi de dire des choses personnelles, de me tester. C'est un peu un baptême du feu parce que bon, on me fait confiance pour le dessin, ça reste un autre métier, celui d'écrire une histoire et de convaincre par une histoire. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai envie de tester et que j'ai envie de faire.
Alors, ce sera dans l'avenir proche ou c'est pas, ça se dessine pas, si j'ose dire encore ?
J'espère que ce sera dans l'avenir proche. Je me suis donné comme condition que là, j'ai un contrat en cours. Et après ce contrat, ça doit être un truc personnel.
D'accord. Ben, on vous attend au tournant, j'allais dire. Hein. On sera ravis de découvrir. En tout cas, pour l'instant, les trois albums ont fait l'unanimité au Forum du Livre Péplum, même si vous étiez là pour Cléos précisément. J'ai envie de vous poser comme première question, une question qui vous a déjà été posée lors du forum. Quel est votre rapport à l'Antiquité ? Puisque là, Cléos, ça se passe en Grèce, dans l'univers de la Grèce en tout cas. Ça se passe au 5e siècle et il est vraiment question beaucoup de la Grèce classique.
Oui, oui, oui. Alors mon rapport à l'Antiquité me vient d'abord de mon père, encore une fois, qui est un passionné d'histoire principalement médiévale et antique. Et quand j'étais petite, je le regardais jouer à Rome Total War et à Medieval Total War, qui sont des jeux de stratégie. Et moi, je me racontais plein d'histoires. Donc on a vu, enfant, beaucoup de films historiques de ces époques, autant que mon père pouvait en trouver. On a vu les pires navets, je pense, mais on a vu aussi des films vraiment très bons. Et en grandissant plus tard, ça peut paraître un peu idiot, mais j'ai découvert Les Chevaliers du Zodiaque au lycée, qui est un manga qui fait beaucoup référence à l'Antiquité grecque avec un sérieux tout relatif. Mais ça m'a fait me replonger dans cet univers. Je suis allée relire l'Iliade, l'Odyssée et un gros livre de recueil de mythologie. J'ai réécouté aussi la série Les Grands Mythes d'Arte, que oui, je trouve vachement chouette, qui m'a vraiment passionnée. Et donc, quand on m'a proposé Cléos, c'était pas par hasard, c'était parce que dans le book que j'avais envoyé, il y avait quand même beaucoup de temples grecs, d'îles grecques et de personnages en armure. Donc, c'est un peu tout ce qui m'a mené à l'Antiquité. Et d'ailleurs, c'est une période que je redessinerai avec plaisir.
Ah ben, nous, on en serait absolument ravis. On va marquer une petite pause musicale, peut-être pas très sérieuse, peut-être un peu enfantine, mais c'était l'occasion de rappeler que les mythes de la Grèce parlent à tout le monde depuis le plus jeune âge. Et j'avais envie de vous faire écouter le générique de Ulysse 31. Ça a l'air loufoque, mais ça nous ramène peut-être à tout ce que nous avons déjà dit. À tout de suite, Amélie.
À tout de suite.
À travers les cieux, l'espace et le temps, un vaisseau s'en vient, Ulysse. poisson dans l'eau avec Thémis, Télémaque et Ulysse.
Alors, Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, bien entendu. Et c'est Amélie Causse qui est notre star aujourd'hui, notre invitée que nous avons tellement appréciée lors du forum du livre Péplum pour la remise du prix Annie Pesson, le prix de BD antiquisante pour l'album intégral Cléos, paru en 2023. Alors, cet album, vous en êtes la dessinatrice, Amélie. Et il y a un scénariste dont peut-être il faut dire un petit mot et raconter d'où vient cette histoire inventée.
Oui, alors le scénariste, c'est Marc Ekersol, qui commence à avoir fait pas mal d'albums, qui est plutôt très productif, et qui avait ce projet de Cléos depuis longtemps, qui à la base, c'était un scénariste de cinéma, et à la base, il avait écrit Cléos pour le cinéma.
Ah d'accord.
Voilà. Et bon... Faire produire un péplum avec une reconstitution historique de cette ampleur au cinéma, c'est pas évident, en France principalement, mais de manière générale pas évidente. Et alors il en parlerait mieux que moi, mais il est très heureux de cette tournée vers la BD, il dit qu'il y trouve une grande liberté.
Exactement, hein, parce que l'album, l'histoire est tellement touffue, hein, il y a énormément de choses.
Hein. Oui, oui. Oui, bah, ça a été vraiment l'occasion de jouer entre bah, lui, sa vision, et la vision du dessinateur. Alors là, c'est moi. mais oui, c'est vraiment... c'est une histoire dense.
Et alors, vous êtes retrouvée dans cette histoire incroyable. Alors vraiment, je le dis pas parce que vous êtes, j'ose dire, pas tout à fait en face de moi, mais presque, mais je le pense réellement. C'est une histoire époustouflante, quoi. On ne s'ennuie pas une minute, les épisodes s'enchaînent, et on a vraiment l'impression de suivre ce héros qui, au départ, est un tout petit pêcheur, mais qui a de l'ambition dès le début, hein. Un petit pêcheur lettré, comme on peut imaginer que dans la Grèce ancienne, mais aussi dans la Rome ancienne, eh bien, les gens étaient capables de réciter les uns l'Iliade et l'Odyssée pour la Grèce, et les autres, ben, Homère toujours pour les Romains, mais Virgile et l'Énéide. Et on est toujours frappé de voir combien c'était, ça faisait partie du quotidien. Et là, ce petit pêcheur Cléos, qui ne s'appelle pas tout de suite Cléos, hein, il s'appelle Philoclès.
Oui, qui veut dire en grec « qui aime la gloire ».
Voilà. Alors, il est bien nommé. Il habite la cité d'Amorgos. Et ce petit pêcheur donc, veut accomplir des exploits parce qu'il est nourri. Et la couverture qui est magnifique de l'album, l'intégrale toujours, hein, le représente. Alors lui, il est tout beau, tout fin, tout avec un visage anguleux tel qu'on imagine, avec un bonnet grec. Et il tient dans la main le casque dont on peut imaginer que c'est le casque d'Achille. Car Cléos, comme beaucoup de gens de son époque, est habité par Achille. Et il veut accomplir des exploits. Alors qu'est-ce qui va le mener à partir de son petit endroit d'Amorgos pour aller sur les mers?
Et oui, alors, donc effectivement, Philoclès, le héros, est vraiment imprégné des histoires d'Achille. Il se rêve en Achille et un jour, son île est attaquée par des pirates qui pillent sa petite ville. Et il se sent pousser un grand courage et il est un petit peu poussé dehors aussi par le stratège de sa cité parce qu'il commence à faire un peu de bruit.
Et oui, c'est assez amusant d'ailleurs parce qu'on dit oui, vaut mieux le flatter pour le faire partir parce qu'on n'a pas envie qu'il convainque tous les autres, quoi.
Oui, à se rêver en héros, il risquerait peut-être de devenir un héros révolutionnaire. Alors, il vaut mieux l'envoyer loin en quête de gloire. Et c'est ce qu'il fait, il part à la recherche donc des pirates qui ont pillé son île avec le projet un peu fou de, on ne sait pas trop, se venger manifestement sur une petite coquille de noix, un petit bateau de pêcheur. Et donc, il part dans les Cyclades, comme ça, pour retrouver ses pirates. Sur le chemin, il va demander conseil à Tirésias.
Oui, parce qu'il y a énormément... Alors, lui-même, il est tout le temps en train de citer l'Iliade, la plupart du temps. Mais vous, on dirait bien que c'est l'Odyssée aussi qui vous habite. Parce qu'on retrouve plein de similitudes avec l'épopée de l'Odyssée.
Oui, mais c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme qui se rêve en Achille, mais qui va plutôt devenir... qui va plutôt vivre une Odyssée comme Ulysse. Et finalement, se rapprocher d'Homère dans son rôle au cours de l'histoire, sans divulgâcher.
Alors oui, voilà, on va pas tout raconter, c'est absolument pas le but de l'émission, mais entre l'Iliade et l'Odyssée, et avec cette idée fort belle que les mythes ont la peau dure, quoi. Les mythes traversent les lieux, les époques, et que nous encore, on est accrochés à ces mythes.
Oui, maintenant Cléos, il est beaucoup question de l'influence de ces histoires sur nous et de l'immortalité de ce qu'on raconte donc à l'époque, à l'oral. Dans ces histoires, c'est vraiment une partie principale du sujet de l'histoire au fil du temps. C'est vraiment devenir immortel à travers ces histoires et soi-même commencer à faire rêver en fait, et à influencer en devenant soi-même une figure mythique comme Achille.
Et oui, comme Achille qui a choisi de ne pas être immortel lorsqu'on lui a demandé ce qu'il préférait, et il préférait la gloire. Et donc, mais comme ce récit que vous avez admirablement dessiné le montre, la gloire, l'immortalité, c'est peut-être justement les exploits qui la donnent plus que la véritable immortalité.
Oui, bah Achille ne veut pas rester éternellement sur Terre en anonyme. Il vaut mieux mourir dans la gloire et être connu éternellement pour ça plutôt que de vivre une vie tranquille et très longue.
Alors, il va étonner dans son parcours. Alors, moi, ce que j'ai trouvé admirable, c'est tous les petits clins d'œil à l'Odyssée, mais avec des choses qui sont tellement bien observées. Par exemple, j'ai adoré le passage avec les sirènes. On voit que ces sirènes à queue de poisson, en fait, s'avèrent, et c'était le cas dans la mythologie, non pas du tout les sirènes héritées de la civilisation nordique qu'on imagine avec des queues de poisson, mais des sirènes oiseaux terrifiants.
Oui, elles passent des sirènes un peu telles qu'on les imagine aujourd'hui aux harpies grecques, qui sont bien moins accueillantes.
Oui, qui sont totalement effrayantes et pas du tout belles, en fait. Hein.
Oui, oui.
Alors que pour nous, une sirène, c'est un être mi-poisson, mi-femme, et c'est forcément beau. Et là, on voit en effet que dans les antres de la mer, Cléos va se rendre compte de la réalité atroce de ces sirènes.
Oui, bah, il est affamé, abruti par le soleil, et est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il a vraiment vécu ça, on le saura pas vraiment. Mais oui, il passe très vite du rêve au cauchemar.
Et alors on retrouve plein d'épisodes, des petits clins d'œil à Calypso, qui n'est pas Calypso ici, l'île de Délos, donc Tirésias dont vous avez évoqué l'épisode tout à l'heure. L'allusion au Cyclope, même si c'est pas, encore une fois, c'est ça qui est admirable, ce n'est pas... vous ne racontez pas l'Iliade ou l'Odyssée, mais on sent que c'est une culture qui a imprégné votre héros et vous-même.
Oui, bah pour quelqu'un qui connaît bien l'Iliade et l'Odyssée, donc Cléos y retrouvera beaucoup de clins d'œil, effectivement. Le Cyclope, le nom dont le héros se fait affubler dans la deuxième moitié. Beaucoup de choses qui renvoient à l'Iliade et l'Odyssée, effectivement.
Mais oui, parce qu'à un moment donné, on joue là aussi sur les mots comme dans l'Odyssée, et il s'appelle finalement Outis.
Oui, qui veut dire personne.
Voilà, c'est allusion au cyclope Polyphème qui demande à Ulysse, qui l'a berné, quel est son nom. Et évidemment, il y a un petit passage cocasse que tout le monde a en mémoire. En fait, le cyclope va raconter ensuite, il va se plaindre que personne ne lui a crevé son œil et ne l'a dupé surtout.
Oui, oui.
Il l'a rendu aveugle de toutes les façons. Ce qui est aussi une trame importante dans l'histoire et qui rejoint ce que nous avons déjà dit, mais qu'il faut préciser un peu plus, c'est cette notion de, dans la Grèce et dans l'Antiquité, celui qui raconte. Alors, l'Aède, c'est un fil conducteur vraiment récurrent dans cet album.
Ben, c'est par l'Aède que l'histoire commence. Et par la haine que l'histoire finit, c'est-à-dire que, sans tout raconter, c'est vraiment ces histoires qu'on raconte qui vont guider tous les personnages qui sont tous dans leur époque, dans leur réalité, et qui peut-être rêvent de quelque chose de plus grand, percé par ces histoires, et le héros principalement. Et voilà, cette capacité qu'il a d'être, comme vous dites, un pêcheur lettré, ça va peut-être lui permettre de trouver une place, et pas celle qu'il attendait, mais de trouver un rôle dans toute cette histoire de mythe.
Oui, parce que, alors, c'est très curieux, il devient poète à un moment donné par intérêt, je vais dire. Hein. Il prend un travail.
Ah oui, voilà. Pour survivre, il doit raconter des histoires, jusqu'à plus soif.
Donc, il y a une imbrication des récits dans le récit qui sont vraiment très belles. Donc, il devient poète à aide à son tour, même si on ne veut pas trop de lui. et il va essayer de jouer de son rôle d'Aed qui lui a sauvé la mise pour s'enfuir d'un endroit où il est retenu.
Oui, il est prisonnier, prisonnier d'une île, prisonnier d'une cité. Et il se trouve que le chef de cette cité aspire à l'immortalité par la gloire. Donc il a besoin de quelqu'un qui puisse raconter ses histoires. Et alors, ça donne un avantage stratégique au héros assez conséquent.
Oui, voilà. Donc ses projets de s'enfuir, sa ruse, etc. finalement vont aboutir à une issue heureuse. Non pas inattendue, parce que nous l'attendions, mais lui peut-être n'y croyait plus. Eh bien, écoutez... Pardon, excusez-moi. Allez-y.
Non, j'allais dire une issue heureuse, ça dépend des lecteurs. Certains m'ont dit que la fin était terrible, d'autres que c'était une belle fin, donc ça dépend.
C'est vrai que, bon, alors bien sûr, on ne va pas la raconter, mais c'est ce qu'on appelle bon, une fin ouverte, effectivement.
Oui.
Alors, on attend d'autres albums aussi merveilleux que celui-ci. En tout cas, j'incite tous les auditeurs à se précipiter sur Cléos. Je n'ai pas rappelé la maison d'édition, c'est Bambou Grand Angle. Vous le trouverez facilement, et en particulier la librairie Pop-Up, notre partenaire pour le prix Annie Pesson de la BD Antiquisante. Merci beaucoup, Amélie.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.